Justice. Comment prouver la violence psychologique du PN ? Comment prouver la violence psychologique du PN bien moins visible que la violence physique ? Lors d'une rupture avec un pervers narcissique, il est souvent nécessaire de mêler la justice à votre affaire de couple, ou bien de relation de travail, voire d'amitié ou de famille. Que ce soit dans le cadre d'un divorce, d'une procédure auprès du juge aux affaires familiales ou d'un litige au prud'homme, vous devrez impérativement vous faire accompagner d'un bon avocat. Seulement, sachez que démontrer la maltraitance morale est difficile, mais pas impossible. Voici nos conseils pour commencer à monter votre dossier de victime d'abus moraux et surtout pour éviter de tomber dans des pièges pouvant retourner la situation à votre désavantage. Cette réflexion est tirée d'un article du site internet www.pervers-narcissique.com dirigé par Pascal Cauder, psychanalyste et psychologue clinicien, co-auteur de l'ouvrage de référence « La manipulation affective dans le couple, faire face à un pervers narcissique ». Depuis plus de 30 ans, Pascal Cauder et son équipe de thérapeutes spécialistes des questions autour de la manipulation sentimentale prennent en charge les victimes de PN francophones partout dans le monde grâce à la vidéoconsultation. Rendez-vous sur pervers-narcissique.com pour accéder gratuitement à une multitude de ressources précieuses. Dans quel cadre démontrer les abus moraux ? Prouver la violence psychologique en tant que telle relève du code pénal. Ainsi, il faut savoir que cela constitue une infraction sérieuse à la loi. Il ne s'agit plus du code civil qui concerne simplement un conflit entre deux particuliers, c'est désormais une affaire publique dans laquelle la victime ou le procureur de la République peut saisir la justice pour harcèlement. C'est un peu comme si l'État lui-même était lésé, puisqu'il y a non-respect de la législation en vigueur. La violence conjugale en justice. Dans le cadre d'une séparation de couple, il convient de bien identifier chaque thématique. Il y a d'une part le divorce, d'autre part la fixation de l'exercice des droits parentaux et de la résidence des enfants, et enfin la procédure pénale pour violence conjugale. Si les deux premières peuvent se régler ensemble au tribunal judiciaire, la troisième sera jugée au tribunal correctionnel pour les délits, voire en cour d'assises pour les crimes. Prenez garde à ne pas confondre les trois qui sont des démarches bien distinctes et ne se plaident pas forcément en même temps. Le harcèlement au travail et les différentes juridictions. Dans le contexte d'un PN au travail, on parlera plutôt de harcèlement moral ou sexuel, reconnu à la fois par le code pénal et le code du travail. Les juridictions compétentes selon le cas et la solidité du dossier sont le conseil des prud'hommes ou le tribunal correctionnel. Sachez que si vous avez opté pour l'action prud'homale, vous ne pourrez plus déposer de plainte auprès du juge pénal pour la même affaire. Mise en garde sur les amalgames dans le traitement juridique des abus moraux. Attention à régler chaque affaire selon le tribunal en charge de statuer dans son domaine de compétence. Cette précision a son importance, car nous voyons malheureusement trop souvent le cas de personnes qui mélangent tous les sujets. Par exemple, un juge aux affaires familiales est là pour décider de la mise en place éventuelle d'une garde alternée des enfants communs, et non pas pour assister à une énième dispute de couple. Son objectif est de protéger les intérêts des mineurs, et non d'arbitrer un match entre deux adultes qui ne s'entendent plus. Sachez que ces situations exaspèrent les magistrats, qui auront alors tendance à vous percevoir comme de mauvais parents. Pourtant, les frontières sont souvent plus floues qu'il n'y paraît, et il se peut qu'un JAF saisisse le caractère manipulateur d'un PN. Malheureusement, les pervers narcissiques le savent bien et sont en général très doués pour amadouer leurs interlocuteurs et en faire leurs complices. Suivez bien les conseils de votre avocat avant de risquer de parler de votre vécu traumatique à un juge aux affaires familiales. Quelles sont les preuves recevables de violences psychologiques ? L'article 427 du Code pénal nous indique que la preuve est libre et peut se faire par, je cite, « tout mode ». Fin de citation. Cependant, le juge doit fonder sa décision sur des éléments recevables. Le problème, c'est que bien souvent, les victimes qui sortent de l'emprise du narcissique pathologique veulent passer à autre chose et ne conservent pas toujours leurs éléments probants. Voici les pièces utiles pour constituer un dossier de plainte pour violence morale. Les indices. Les indices sont des traces matérielles qui visent à démontrer l'infraction. Cela peut être des photos, des messages écrits ou oraux laissés par le harceleur. Les preuves de dépôt de main courante et de plainte auprès des services de police peuvent aider à remplir le faisceau d'indices. L'important est d'établir le caractère répétitif du harcèlement ou bien le défaut de consentement, voire la contrainte. Les preuves littérales. Les preuves littérales d'infraction à la loi peuvent être des constatations d'experts qui éclairent les indices. Il peut s'agir d'enquêteurs de police, de services sociaux, de médecins, etc. Ainsi, une expertise psychologique des deux opposants, le requérant et le justiciable, a le pouvoir de mettre en évidence une relation d'emprise. Sachez toutefois que même si un médecin est soumis au secret médical, une victime peut tout à fait lui demander d'établir une attestation de type « Je constate un état d'anxiété réactionnelle que le ou la patiente indique être en lien avec de la violence psychologique exercée par Monsieur ou Madame X ». Cette preuve peut être fondamentale dans la constitution d'une plaidoirie pour maltraitance psychologique. Les témoignages. Les témoignages sont apportés par des tiers qui attestent à l'écrit ou à l'oral de situations de violence psychologique auxquelles ils ont pu assister. Ils peuvent établir leur déclaration eux-mêmes sur papier ou bien être convoqués pour être entendus par des représentants de la loi. Ils sont obligés de répondre à ces injonctions à se présenter devant les autorités compétentes. Les aveux. Les aveux sont des confessions ou des déclarations effectuées par le prévenu, recueillies par exemple au cours d'un interrogatoire ou d'une audition. Les erreurs à ne pas commettre par une victime de violence morale. Tant que la justice n'a pas statué sur la culpabilité de l'accusé de violence psychologique, il faut être très prudent. La loi vise à protéger tous les citoyens, et la présomption d'innocence est une valeur à laquelle la justice française est très attachée. La dénonciation calomnieuse. En droit français, la dénonciation calomnieuse est une accusation mensongère généralement portée devant une autorité compétente avec l'intention de nuire à la réputation ou à la situation de la personne visée. Tout comme la violence conjugale, il s'agit d'une infraction au code pénal. Ainsi, un accusé d'abus moral qui aurait été définitivement acquitté ne peut plus être dénoncé pour les mêmes faits, sous peine de poursuite pénale envers le dénonciateur. La diffamation. La diffamation est constituée par une atteinte à l'honneur d'une personne. Elle est punie par la loi dans le cadre du Code civil. Les sanctions encourues sont plus lourdes si la diffamation est publique plutôt que privée, ou bien si elle porte préjudice à la personne, vise les autorités publiques ou encore comporte un caractère raciste ou discriminatoire. Faites en particulier très attention à ce que vous publiez sur les réseaux sociaux, car ces plateformes sont régulièrement à la une des affaires de propos diffamatoires condamnées par un tribunal. L'atteinte à la vie privée par enregistrement vidéo ou audio à l'insu d'autrui. Les enregistrements vidéo ou sonores réalisés ou partagés sans le consentement des personnes y apparaissant peuvent constituer des éléments d'atteinte à la vie privée selon le Code civil. Toutefois, le Code pénal spécifiant accepter, je cite, « tout mode de preuve », fin de citation, offre davantage de souplesse en la matière. Aussi, il faut faire bien attention à comment utiliser les vidéos, les messages audio et notes vocales dans une affaire de violence psychologique. En effet, selon le type de procédure en cours, ces pièces pourront se retourner contre la victime. Nous venons de voir comment prouver la violence psychologique, mais le pourquoi d'une telle démarche mérite aussi que l'on se questionne. Généralement, les enjeux reposent sur le fait de recouvrer sa dignité, de faire reconnaître son statut de victime, mais aussi de protéger les autres des agissements subis. En effet, le Code pénal admet que les comportements de violence verbale et de harcèlement entraînent une, je cite, « altération de la santé physique ou mentale », fin de citation. La psychosomatisation, dont nous avons déjà parlé dans un autre épisode de podcast, est en effet courante chez les victimes de MPN, et il est primordial que cette violence qui ne se voit pas de prime abord soit considérée avec sérieux par les législateurs. N'hésitez pas à vous faire accompagner par des thérapeutes spécialistes des questions de la perversité narcissique. Rendez-vous sur www.pervertir-narcissique.com et trouvez-y de nombreux conseils sur comment gérer la séparation, comment gérer l'après, la reconstruction, et vous pourrez également rentrer en contact avec un membre de l'équipe. Ne restez pas seul. Merci d'avoir écouté ce podcast. Rendez-vous très prochainement pour un nouvel épisode. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer des prochaines publications. À très bientôt.